est aussi enseignante à l'école Daniel en maternelle. Moi, j'enseigne les maths, la physique, la culture biblique, l'informatique. Et c'est vrai que j'aurai le privilège et la grande responsabilité à partir de la rentrée d'être responsable du collège à l'établissement Daniel. Et c'est aussi mon grand privilège et ma grande responsabilité devant Dieu de vous apporter la parole de Dieu ce matin. Et ce que je vous propose, c'est d'ouvrir votre Bible, pour ceux qui en ont une, dans le livre de Daniel. Établissement Daniel, Daniel. Daniel chapitre 1. Je vais en faire la lecture. Je vais aller assez vite, de manière assez soutenue, parce que le texte est assez long. Mais je pense qu'il faut le lire en entier pour en tirer toute la substance. Daniel chapitre 1. Le texte dit « Nous sommes à la troisième année du règne de Joachim, roi de Juda. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et il l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison de son Dieu. Le roi donna alors l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence, d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms, à Daniel celui de Belshazzar, à Anania celui de Shadrach, à Michaël celui de Meshach et à Azaria celui d'Abednego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains, mon seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire. C'est pourquoi, car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël, d'Azaria. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient, et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets du roi et le vin qui leur était destiné, et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amène, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il n'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qu'ils réclamaient de la sagesse, de l'intelligence et sur tous lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Jusqu'ici notre lecture. On dit que si vous mettez une grenouille dans un bassin d'eau chaude, instantanément, elle bondit en dehors du bassin et se sauve. Par contre, si vous la mettez dans un bassin d'eau bien fraîche et que vous faites monter la température progressivement, peu à peu, cette grenouille va s'habituer, puis tout doucement, elle va s'engourdir et elle finira par mourir sans même s'en rendre compte. Est-ce que vous sentez parfois la température monter autour de vous. En ce moment en particulier. Je vous propose de garder votre Bible ouverte dans Daniel. Les petits questionnaires, je ne les ramasse pas, ils ne sont pas notés. C'est pour vous, c'est pour suivre le plan, la structure des éléments de la prédication, je vous rassure. Bien entendu, s'il y a des plus jeunes qui sont restés et qui veulent le remplir, me le rendre, avec plaisir, je leur ferai une correction, entre guillemets, et je vous les retransférerai d'une manière ou d'une autre. Donc, la Bible ouverte dans Daniel 1, un des récits les plus connus de la Bible, un des récits dans le hit parade de l'école du dimanche. Et pourtant, c'est bien compliqué de trouver la bonne page des fois dans Daniel. Exilé, nom masculin, se dit d'une personne qui est obligée de vivre en dehors de sa patrie. Un exilé est souvent quelqu'un qui se trouve en décalage avec le lieu où il réside, car il porte en lui un ensemble de valeurs, de traditions et de pratiques culturelles qui façonnent son identité. Cet éloignement peut provoquer une tension entre l'attachement à ses racines et la nécessité de s'adapter à un environnement qui ne partage pas forcément les mêmes références. Voici une définition du mot exilé. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette définition ? Alors pas en tant que peut-être allemand ou suisse ou peut-être français exilé en Alsace, mais en tant que chrétien. En tant que chrétien vivant en décalage dans une société qui ne partage pas les mêmes références que vous. En tant que chrétien conscient, comme le dit Paul aux Philippiens, de sa double citoyenneté. Bien que résidant dans ce monde, nous sommes avant tout des citoyens du royaume des cieux. Eh bien, il y a plus de 2600 ans, Daniel et ses amis, eux, se trouvaient vraiment en exil. Où ça, nous dit le texte ? Où se trouvaient-ils en exil ? Au pays de Shinéar. Le pays de Shinéar qui n'existait plus à l'époque de Daniel. Mais le pays de Shinéar, qui est une mention volontaire pour rappeler un autre passage de la Bible, que vous avez peut-être, Genèse 11, la tour de Babel. Babel qui a donné Babylone. Babylone qui symbolise dans toute la parole de Dieu une culture en opposition, en rébellion contre Dieu. Aujourd'hui, en 2026, ne vivons-nous pas dans une culture qui est toujours plus en opposition et en rébellion contre Dieu ? Les valeurs de notre culture, ces idéologies, ne sont-elles pas de plus en plus en opposition avec les valeurs bibliques ? C'est pourquoi, malgré les 2600 ans qui nous séparent, il y a beaucoup de similitudes entre notre contexte et celui de Daniel et ses amis. Et c'est pourquoi un texte comme nous avons lu ce matin a beaucoup d'éléments à nous apprendre sur comment vivre en chrétien dans un monde qui ne l'est plus. Et dans ce premier chapitre du livre de Daniel, il me semble que l'on trouve trois éléments de cette opposition d'exil. Premièrement, l'assimilation, la stratégie de Babylone envers le peuple de Dieu. Deuxièmement, la résolution, la stratégie du peuple de Dieu envers Babylone. Et troisièmement, nous verrons la bénédiction, d'une certaine manière, la stratégie de Dieu envers son peuple. Mais commençons par l'assimilation. Cette stratégie de Babylone qui s'opère en trois étapes, en trois I. Isolé, idéologisé, identifié. Premièrement, au verset 1 et 2, Babylone isole. Le jeune général Nebuchadnezzar qui rentre d'une conquête militaire réussie en Égypte, qui devient roi et qui désormais va se tourner vers la ville de Jérusalem. cette ville qu'il va assiéger et peu à peu affaiblir et détruire. Ce jeune roi demande qu'on ramène à Babylone des adolescents israélites, mais pas n'importe lesquels, des israélites de race royale, afin qu'ils soient formés à la vision du monde babylonienne. Et parmi ces adolescents, nous retrouvons Daniel et ses amis. Essayons quelques instants de nous mettre à leur place, à imaginer leur situation. Ils viennent d'être arrachés de leur pays. Ils sont arrachés de leurs parents. Le texte ne le dit pas, mais à leur âge, c'est probable qu'ils étaient déjà fiancés dans leur milieu social. Des jeunes de race royale, à cet âge-là, étaient fréquemment déjà fiancés. Par contre, un élément bien plus probable que nous avons dans le texte, c'est quand on regarde qui est le supérieur de ces jeunes. C'est le chef des eunuques. Daniel et ses amis ont probablement été faits eunuques. D'ailleurs, c'est une pratique qui était courante chez les Perses et qu'on retrouve dans 2 rois 16 ou 17, il me semble, qui expliquent que leurs esclaves, ils les faisaient eunuques. Autre élément qui va souligner ça, dans tout le livre de Daniel, il n'est jamais mention d'une vie de famille pour Daniel. Quelle situation catastrophique. Rajoutez à ça que Jérusalem, qui n'est pas simplement leur ville où ils vivent, qui n'est pas simplement la capitale de leur pays, mais Jérusalem, qui est le cœur battant de leur identité juive, est assiégée, affaiblie et peu à peu détruite. Ces jeunes se retrouvent isolés parmi un peuple qui leur est hostile, isolé parmi un peuple qui semble être en train de vaincre le peuple de Dieu. On pourrait craindre pour eux. On pourrait se dire, mais qu'est-ce qui va leur arriver? Mais vous avez suivi la lecture de ce texte. Et finalement, tout ne se passe pas si mal pour nos 4 jeunes. Pourquoi? Parce que la stratégie de Nebuchadnezzar, elle est rusée. Elle est sournoise, j'oserais même dire qu'elle est brillamment rusée. Il va chercher à répandre son royaume, non pas par la force, mais par l'assimilation. Il a commencé par isoler ces jeunes. Maintenant qu'ils sont isolés, il va chercher à les idéologiser. Versets 3 à 5. Et il y a 2 facettes à cette idéologisation, un peu compliquée à prononcer. L'éducation qui est accompagnée de privilèges. L'éducation, donc dans la salle de classe pour commencer. Daniel et ses amis étaient de jeunes garçons, verset 3. Ma version rend même le mot « enfant ». Les commentateurs sont d'accord pour dire qu'ils avaient entre 13 et 16 ans. Et à ces jeunes qui sont en âge d'aller au collège début du lycée, on leur enseignerait la littérature et la langue des Babyloniens. Pourquoi ça? Parce que déjà il y a plus de 2600 ans, les stratèges malveillants savaient que l'éducation, que l'instruction des enfants était l'angle d'attaque par excellence pour inculquer une nouvelle façon de penser et de vivre. Ils avaient bien compris que la transformation d'un peuple passait par l'éducation. La transformation passe par l'éducation. Pour Daniel et ses amis, cela visait en fait à remplacer toutes leurs connaissances qu'ils avaient de la Torah par des connaissances liées à des traditions babyloniennes. On cherche à remplacer leur vision du monde ancrée dans la parole de Dieu par une vision du monde d'une culture complètement païenne. Pour nous aujourd'hui, ne vivons-nous pas quelque chose de similaire? Ne vivons-nous pas quelque chose de plus évidemment similaire dans nos salles de classe? Et bien entendu, aussi en dehors de nos salles de classe. Et à l'époque de Daniel, comme aujourd'hui encore, On demande l'éducation, mais on l'accompagne de privilèges. On passe de la salle de classe à la cantine. Les mets du roi seront leur nourriture à ces jeunes. Pour Daniel, école obligatoire, mais par contre, cantine gastronomique. Comme le dit l'adage, on attrape plus de mouches avec une cuillère de miel qu'avec un pot de vinaigre. Pour nous aujourd'hui, ça fonctionne de la même manière. Apprenez ce qu'on vous demande d'apprendre et vous aurez un bon bulletin. Avec un bon bulletin, vous pourrez faire de bonnes études. Avec les bonnes études, vous aurez un bon CV. Avec un bon CV, arrivent enfin les bons privilèges. Un bon CV, vous pourrez avoir un bon salaire. Et avec un bon salaire, vous pourrez vous payer une belle maison, une belle voiture, faire de beaux voyages. Et cerise sur le gâteau, vous pourrez même manger dans des restaurants gastronomiques. Alors on peut se poser la question. Alors je me pose la question. Mais quels sont ces privilèges qui me sont proposés pour m'attirer? Quels sont ces privilèges qui nous sont proposés pour nous attirer et pour nous faire oublier l'essentiel? Pour nous attirer et pour nous dire, la température de l'eau n'est-elle pas bonne ici? Voici quelle est la stratégie de Babylone envers le peuple de Dieu, l'assimilation. Et cette stratégie se termine par un dernier volet, l'identification. Babylone identifie les versets 6 et 7. Dernier angle d'attaque, s'en prendre même à leur identité à ces jeunes. La tactique finale consiste à changer leur nom. Littéralement, retenez ça pour plus tard, littéralement, le chef des eunuques leur imposa des noms. Daniel, Dan, juge, El, Elohim, Dieu, Dieu est mon juge, devient Belshazzar. Bel protège sa vie. Bel, qui est un autre nom du dieu Marduk, Marduk, la divinité principale des Babyloniens. Anania, Anna, la grâce, Yahweh, l'éternel a fait grâce, devient Shadrach, commandé par Akou. Akou qui était le dieu de la lune chez les Babyloniens. Michaël ou Michaël, Mika, qui est semblable, elle, Elohim, qui est semblable à l'éternel, devient Meshach, qui est semblable à Akou. Azaria, Azar, le secours, Yahweh, l'éternel a secouru, devient Abed-Nebo, Abed-Nego, selon les traductions, serviteur de Nebo. Nebo qui est nul, qui n'est juste, qui est simplement le dieu de la sagesse chez les Babyloniens. D'où d'ailleurs Nebuchadnezzar tire son nom. Quand on lit comme ça Daniel, on ne s'en rend pas compte. Quand on s'arrête sur ces noms et leur signification, ô combien on voit que derrière ça, il y a une stratégie. Quel est le but de tout cela? C'est d'essayer d'effacer leur passé. Effacer leur valeur, effacer leur identité même en tant que peuple de Dieu et réécrire à la place, réinculquer de nouvelles valeurs, des nouvelles idoles, une nouvelle culture, une nouvelle vision du monde, du Babylone. Voilà la stratégie subtile des Babylones envers le peuple de Dieu, l'assimilation. Et ne vous y trompez pas, la stratégie est toujours la même aujourd'hui. Et en particulier sur ce domaine de l'identité pour nos jeunes, de plus en plus jeunes. On leur dit, mais si tu ne te sens pas bien dans ton corps, c'est peut-être que tu n'es pas un garçon. On leur dit, mais si tu n'aimes pas ta sœur, c'est peut-être que tu aimes les garçons. Suivez bien nos programmes éducatifs qu'on vous propose, qu'on vous impose. Lisez nos journaux. Lisez nos livres, lisez nos magazines. Regardez confortablement nos chaînes télévisées, nos séries, nos films. Aspirez à tous ces plaisirs que le monde vous propose. Mais surtout, ne vous posez pas de questions. L'eau n'est-elle pas bonne ici? En d'autres termes, la stratégie pourrait se résumer ainsi. On ne va pas se battre contre vous. Venez et devenez simplement comme l'un d'entre nous. On ne va pas se battre contre vous. Venez et devenez comme l'un d'entre nous. Alors, je reconnais que mon propos mériterait plus de nuances. Hein. Tout n'est pas mauvais dans notre culture. Tout n'est pas mauvais dans ce que l'on lit et ce qu'on le regarde. Mais comprenez-moi bien, ce que je veux souligner ici, c'est que si on ne fait pas attention, si on n'y prend pas garde, il y aura tôt ou tard assimilation. L'assimilation est la stratégie de Babylone envers le peuple de Dieu. Voyons désormais la résolution. La stratégie de Daniel et ses amis. Une réponse qu'il donne qui fait preuve d'une résolution provocante et qui témoigne d'une détermination étonnante. Une résolution provocante, verset 8, qu'on retrouve dans la réponse de Daniel au chef des eunuques. Une réponse qui est à la fois toute simple, mais très énigmatique. On veut un régime végétarien. Moi, depuis les beaux jours, je dois être à peu près à 15 barbecues. Donc, je ne vais pas vous mentir que ce n'est pas du tout la réponse que moi j'aurais donnée. Et on peut se demander le pourquoi de cette décision. Certains vont dire, mais c'est logique. Ils ne veulent pas se souiller pour respecter les lois alimentaires du Lévitique. Mais dans ce cas-là, pourquoi aussi le vin ? Rien ne l'interdit dans les lois alimentaires. D'autres vont dire non. Non, ils veulent simplement ne pas manger des viandes qui ont été offertes aux idoles babyloniennes. Mais ce n'est pas bien connaître les rites babyloniens, car dans les rites babyloniens, les légumes aussi étaient offerts aux idoles avant même d'être servis à table. Certains vont dire que c'est simplement pour ne pas faire publiquement alliance avec le régime babylonien. Vous savez bien que dans la culture hébraïque, partager un repas, c'est plus que simplement partager un bon moment. Il y a vraiment une notion d'alliance qui est là. Alors, on peut faire plein d'hypothèses quant à ce choix de régime végétarien. Et certainement qu'il y a des éléments de réponse dans ce que je viens de vous dire. Mais il me semble qu'il n'y a rien d'assez convaincant. En tout cas, le texte ne dit rien de clair sur le pourquoi du comment. Le fait est qu'à un certain moment, ces jeunes ont pris position. Comme pour dire « jusqu'ici et pas plus loin ».« Jusqu'ici et pas plus loin ». Et sur le terrain de la logique pure, n'y aurait-il pas de quoi les critiquer ? Attendez les gars, vous êtes prêts à changer de nom et de recevoir un nom babylonien ? Vous êtes prêts à accepter de suivre des cours d'astrologie ? Probablement aussi des cours de magie babylonienne à l'école, mais vous n'êtes pas prêt de faire de compromis sur le menu de la cantine. Où est la logique ? Où est la logique ? Le fait est qu'à un certain point, si nous voulons être fidèles à Dieu, une démarcation claire s'imposera. Et il me semble que le jeu de mots qu'il y a entre le verset 7 et le verset 8 souligne cela. Il y a un jeu de mots dans l'hébreu. Rappelez-vous, je vous ai dit avant que le chef des eunuques leur imposa un nom. Et en fait, c'est au moment où on leur impose un nom que Daniel impose, le même verbe, son régime végétarien. Ne nous arrive-t-il pas également, ne vous arrive-t-il pas également de devoir prendre position ? Dans votre vie quotidienne, quand et sur quel point ne pas participer à la fête d'Halloween avec ses amis à l'école quand on est plus jeune. Et en parlant d'école, encore une fois, simplement oser prendre position, refuser, lutter contre ces programmes scolaires qui sont de plus en plus idéologisés dans notre pays. Quand on est plus âgé, oser dire à nos amis, pourquoi on ne va pas regarder cette série à la télévision que tout le monde regarde au lycée ou à la fac ? S'opposer à mentir sur la qualité du produit qu'on vend dans notre entreprise pour pouvoir faire plus de chiffres ? Je pense qu'il ne sera pas difficile pour vous de trouver des exemples concrets de votre quotidien où à un moment donné, vous avez dû prendre position. où vous devrez peut-être prendre position à l'avenir. Et cela semblera peut-être pas toujours cohérent du point de vue de la logique. Mais nous arriverons à un moment où notre identité même de disciple de Dieu sera menacée, qu'il faudra dire stop, jusqu'ici, pas plus loin. Il faudra dire stop, mais il faudra savoir le dire d'une bonne manière, d'une manière équilibrée. Et regardez avec moi quel équilibre admirable il y a chez ces quatre adolescents. N'est-ce pas admirable de voir qu'ils ne sont pas en train de tomber dans un des deux extrêmes dans lesquels on aurait tendance à tomber ? Face à ce qu'on leur propose ou impose, ils ne tombent pas dans le laxisme, dans le compromis à tout va. Oui, c'est bon, on va faire tout ce que vous demandez, on va se fondre dans la masse. Comme le disait un commentateur, seuls les poissons morts suivent toujours le courant. Ils ne tombent pas dans le laxisme, mais ils ne tombent pas non plus dans le légalisme, en train de dire, oh là là, non, on dit non à tout, on se retire, on s'isole, on ne veut rien avoir avec ce monde païen. Pas de laxisme, pas de légalisme, pas d'assimilation pure, pas de rejet total. Mais au contraire, entre les deux, une présence fidèle, là où ils sont. Voilà quelle est la stratégie du peuple de Dieu face à Babylone. Exercer une présence fidèle là où Dieu nous place. Une présence fidèle qui demande une détermination étonnante. À qui s'adressent ces jeunes garçons de 13-15 ans? Indirectement, ils sont en train de tenir tête à Nebuchadnezzar, le roi le plus puissant de l'époque. Et pourtant, quand ce roi essaye de les isoler, Daniel reste présent. Quand Babylone idéologise, Daniel reste fidèle. Quand Babylone va les identifier, Daniel reste Daniel. C'est vraiment intéressant de lire le livre de Daniel. Les passages qui sont traduits de l'araméen, donc quand c'est Nebuchadnezzar qui parle, Nebuchadnezzar appelle Daniel Belshazzar. Quand c'est dans l'hébreu, Daniel et ses amis continuent à s'appeler Daniel, Anania, Azaria et Michaël. Ils gardent leur identité profondément ancrée en eux. Et enfin, quand Babylone impose, Daniel s'oppose. Il trace une ligne jusqu'ici, pas plus loin. Et je pense qu'il ne faut pas sous-estimer leur force de caractère et le courage qui leur était nécessaire pour tenir une telle position face à ce grand roi. Et on peut se demander, mais d'où leur venait cette détermination? D'où venait cette détermination à ces jeunes? De Dieu, oui. En dernière instance, tout vient de Dieu, mais il me semble, si on regarde le verset 1, que nous pouvons être plus précis. Car le verset 1 nous donne un petit détail de contexte historique qui n'est pas des moindres. Nous sommes à la troisième année du règne de Yéhoiakim. Alors, je suis prof de maths, on va faire un peu de maths, simple, je vous rassure. On va dire qu'ils ont environ 15 ans. On est à la troisième année du règne de Yéhoiakim. Ça veut dire que les trois dernières années, c'était sous ce règne-là, mais les 12 premières années, ces jeunes gens les ont vécu sous le règne du roi qui a précédé Yéhoiakim. Oui, j'ai entendu dire, c'est le roi Josias. Ces jeunes garçons ont vécu 12 ans sous le règne du roi réformateur, du roi qui, après des siècles de déclin spirituel en Juda, a fait réparer le temple. Et dans ses fouilles, il a retrouvé un rouleau de la loi qu'il a lu, qu'il a pris à cœur et qu'il a appliqué. Il a fait détruire tous les idoles. Il a remis Dieu au centre de la vie du peuple. Et Daniel et ses amis ont grandi auprès de ce roi. Qu'est-ce que nous a dit le texte au verset 3? C'était des jeunes de race royale. Très certainement qu'ils ont grandi dans la maison du roi. Mais Daniel et ses amis ont aussi très certainement étaient élevés par des parents dans la foi au Dieu d'Israël. Il suffit de regarder les noms qu'ils ont reçus. pour voir combien ils ont été ancrés dans le Dieu d'Israël. En d'autres termes, le courage de ces jeunes garçons, leur force de caractère, leur détermination ne venait pas de nulle part. C'est le fruit de l'éducation qu'ils ont reçue. C'est le fruit de l'éducation qu'ils ont reçue. Est-ce qu'on réalise combien le fait d'éduquer la jeune génération qui est là, présente, selon Dieu, est une des responsabilités à la fois les plus belles et les plus importantes de notre vie? Et cela devrait tous nous encourager. Que vous soyez parents, grands-parents, futurs parents, éducateurs, enseignants, oncles, tantes, etc. Cela devrait nous encourager tous à élever une prochaine génération de Daniel. Moi, je ne sais pas vous, mais quand je vois le monde dans lequel je vis et ses développements, je me dis que la génération qui vient devra être une génération de Daniel. Une génération avec Dieu et sa parole au cœur même de sa vie. Une génération qui sera capable d'exercer une présence fidèle dans un monde qui en a tant besoin. Une génération qui aura toute la détermination étonnante que cela nécessitera pour pouvoir vivre d'une manière fidèle et savoir mettre des démarcations claires quand cela sera nécessaire. Nous avons vu la stratégie de Babylone envers le peuple de Dieu, l'assimilation, la stratégie du peuple de Dieu envers Babylone, la réponse, cette résolution de ces jeunes. Voyons maintenant la dernière partie, la bénédiction, la fidélité de Dieu qu'on retrouve tout au fil du texte. En fait, on aurait pu s'arrêter là, dans l'étude de ce chapitre. Il me semble qu'on a pu tirer de la vie de ces jeunes de belles leçons et applications pour notre vie. Mais si on faisait ainsi, je pense qu'on passerait à côté de ce qui est le point principal de Daniel chapitre 1. L'accent dans ce chapitre n'est pas premièrement mis sur la fidélité de ces quatre jeunes garçons envers Dieu, mais il est premièrement mis sur la fidélité de Dieu envers ces garçons. Trois fois dans le texte, nous lisons littéralement que Dieu ou le Seigneur donna. Le verbe hébreu « Nathan », « Dieu donna », verset 2. C'est Dieu qui donna, qui livra, donna Jéhoiakim entre les mains de Nebuchadnezzar. Le texte le dit, c'est Dieu qui a permis ça. Est-ce que ce n'était pas réconfortant pour le peuple de savoir que malgré ces circonstances catastrophiques, Dieu est au contrôle? Dieu est au contrôle, il n'est pas pris de court. Au verset 9, c'est Dieu qui donna à Daniel d'obtenir la compassion du chef des eunuques. Au verset 17, verset bien connu, c'est Dieu qui donna à ces quatre jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. C'est Dieu qui donne cette science, qui donne cette sagesse, qui donne cette intelligence au point où Nebuchadnezzar les trouve 10 fois supérieurs à tous ces astrologues, à tous ces magiciens. Dieu est fidèle à son peuple. Dieu honore ceux qui l'honorent. Et si le Seigneur a pu garder ses garçons fidèles à lui durant cette situation, à combien plus forte raison il est capable de nous garder fidèles, nous aujourd'hui dans nos circonstances. De nous donner le courage, de nous donner cette détermination, cette conviction pour prendre position quand cela sera nécessaire. Non seulement pour aujourd'hui, dans vos situations, peut-être que vous traversez des situations qui demandent cela, non seulement pour aujourd'hui, mais pour tous les jours de votre vie. Et si je dis ça, ce n'est pas pour rien. Car la fidélité de Dieu n'a pas duré juste quelques mois pour Daniel. Elle n'a pas juste duré pendant les 3 années de sa formation à Babylone. Regardez avec moi les versets 21. Le verset 21 qui conclut le chapitre un peu en aparté. « Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus, année où fut promulgué l'édit qui permettait aux Juifs de rentrer de nouveau chez eux. » Ce qui veut dire 70 ans plus tard environ. « Ainsi fut Daniel pendant toute sa vie. » Il a vécu sous la fidélité de Dieu. Des rois sont passés. Des empires même se sont succédés. Mais Dieu a toujours soutenu Daniel durant toute sa vie. Notre Dieu est un Dieu fidèle. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu n'est pas seulement fidèle envers ceux qui lui sont fidèles. Sinon, ce serait une mauvaise nouvelle. En tout cas, pour moi, ce serait une mauvaise nouvelle. Non. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Dieu a prouvé d'une manière parfaite sa fidélité en nous ayant donné son Fils unique pour sauver des personnes infidèles comme vous et moi. Et c'est vers ce Fils unique, c'est vers Jésus-Christ que pointe d'une manière en fait si évidente le texte que nous avons lu ce matin. Regardez bien le parallèle qu'il y a. Daniel est livré entre les mains du roi Nebuchadnezzar. Jésus a été livré entre les mains du roi Hérode. Daniel a vécu un exil de Babylone, de Jérusalem à Babylone. Plus que Daniel, Jésus a vécu l'exil ultime. Il a quitté sa gloire céleste en exil dans notre monde pécheur. Daniel s'est montré fidèle à Dieu dans cette circonstance. Mais plus que Daniel, Jésus, lui le seul, a vécu une vie entièrement et parfaitement fidèle à Dieu en toutes circonstances. Jésus a vécu cette vie parfaite qu'on est incapable de vivre. Et Jésus nous accorde la perfection de sa vie. La perfection de son obéissance est accordée à tous ceux qui se confient en lui par la foi. C'est pourquoi, chers amis, s'il nous arrive d'être infidèles, et vous le savez, et Dieu le sait, que ça nous arrive, en particulier dans le monde dans lequel on vit, avec toutes ces pressions, toutes ces influences, tous ces attraits. Rappelons-nous, comme le dit 2 Timothée 2,13, que si nous sommes infidèles, Dieu, lui, demeure fidèle. Alors que le Seigneur vous aide, m'aide, nous aide à compter sur sa fidélité pour nous garder toujours confiants en lui et fidèles à lui pendant toute la durée de notre vie sur la terre et qu'il puisse nous aider aussi à transmettre cela aux jeunes générations qui nous suivent pour sa gloire. Amen.